Laudetur Jesus Christus.
La traite humaine, un phénomène odieux, affirme François dans un discours remis aux participants de la deuxième assemblée générale de Talitha Koum, le réseau ecclésial qui combat ce mal. Nous y revenons plus en détail juste après les titres. Visite du président français en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron rencontre tous les acteurs institutionnels de l'archipel pour tenter de relancer le dialogue et ramener le calme après plusieurs jours de violences meurtrières. Élection européenne, l'épiscopat français inquiet par les sondages, le président de la conférence des évêques de France appelle les fidèles à bien réfléchir avant de voter. Démission au Tchad du premier ministre de transition en accord avec la nouvelle constitution, et alors que Mama Thérèse Lébihaitno est investie aujourd'hui président du pays.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. La traite des êtres humains est un mal systémique, un phénomène odieux qui peut et qui doit être éliminé par une approche systématique à plusieurs niveaux. C'est ce qu'a déclaré le pape François dans un discours remis ce matin aux membres de Talitha Koum. 200 religieuses représentant des réseaux membres situés dans 90 pays sont réunies à Rome jusqu'au 24 mai à l'occasion de leur deuxième assemblée générale et du 15e anniversaire de naissance de cette fondation. Les précisions avec Stanislas Kambashi.
Marcher ensemble pour mettre fin à la traite, la compassion en action pour la transformation est le thème qui a réuni pendant une semaine les membres des Talitha Koum. Dans son discours remis, le pape a exprimé sa gratitude pour tout ce qu'ils font, à la fois personnellement et tous ensemble pour vaincre la traite des personnes, l'un des fléaux les plus terribles de notre époque qui doit être combattu à plusieurs niveaux et ensemble, car il est en constante évolution et trouve toujours de nouveaux moyens de se développer, comme ce fut le cas lors de la pandémie, et garantit par ailleurs des profits importants à des personnes sans scrupules moraux. Le Saint-Père a cité quelques causes qui favorisent la traite, dont les guerres et les conflits, les effets du changement climatique, les inégalités socio-économiques, la vulnérabilité des personnes forcées à migrer et la situation inégale dans laquelle se trouvent les femmes et les filles en particulier. Le Saint-Père a félicité Talitha Koum pour ses 15 ans d'engagement qui montrent qu'il est possible de continuer la lutte et d'appeler tous, y compris les gouvernements, à la responsabilité. Le pape encourage les membres des Talitha Koum à poursuivre sur cette voie en menant des actions de prévention et de traitement des personnes exploitées et en tissant de nombreuses et précieuses relations indispensables pour combattre et vaincre ensemble la traite.
Stanislas Kambashi. L'Église aura de nouveaux saints et un nouveau bienheureux. Le pape a autorisé ce matin la publication de plusieurs décrets du dicastère pour les causes des saints. Le premier reconnaît le miracle attribué au bienheureux Giuseppe Alamano, prêtre italien mort en 1926. Un second permet la canonisation de Carlo Acutis, un jeune laïc italien mort à 15 ans en 2006. Plus de précisions sur ces futurs saints et bienheureux sur notre site internet www.vaticannews.va. Clarification par le dialogue et l'échange. Au Caire, ce mercredi, le patriarche de l'église copte orthodoxe Tawadros II a reçu le préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez, venu de Rome, expliquer au patriarche d'Alexandrie pourquoi la déclaration Fiducia Supplicans, parue en décembre, ne remet pas en cause la position de l'église catholique sur le mariage, ni n'accorde de bénédiction à l'union entre personnes de même sexe, seulement aux personnes individuelles et de façon spontanée. En mars dernier, le Saint-Synode copte orthodoxe réitérait son opposition au mariage homosexuel, mettant fin ainsi au dialogue théologique avec Rome. Une visite pour tenter d'apaiser les esprits et relancer le dialogue entre deux camps qui ne se parlent plus. Celle du président français en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron est arrivé à Nouméa en tout début de journée. Depuis, accompagné par le ministre de l'Intérieur, celui des Armées et la ministre déléguée aux Outre-mer, il enchaîne les réunions et les déclarations avec indépendantistes et loyalistes. À Nouméa, Jean-François Baudin.
Une démission qui intervient à la veille de l'investiture de l'héritier du trône Mahamat Idriss Déby Itno. Il a remporté l'élection présidentielle du 6 mai.
Voilà, excusez-nous pour cette erreur de papier. On va tout de suite donc retrouver Jean-François Baudouin à Nouméa.
Macron a d'abord survolé en hélicoptère les zones les plus sinistrées et les nombreux barrages qui persistent essentiellement dans le Grand Nouméa. En recevant ensuite les responsables d'institutions, les maires et les acteurs du monde économique, il a assuré que les forces de l'ordre, actuellement au nombre de 3000, c'est-à-dire plus que pour le troisième référendum, resteraient aussi longtemps que nécessaire, y compris pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on a senti dans son vocabulaire qu'il avait pris conscience de la gravité des émeutes. Lorsqu'il s'est entretenu avec les responsables des forces de l'ordre, il a parlé d'un mouvement d'insurrection absolument inédit. Personne ne l'avait vu venir avec un tel niveau de violence. Il y a à coup sûr une organisation sous-jacente, a-t-il dit un peu plus tard en rencontrant des jeunes. Reste la question politique, cruciale pour la sortie de cette crise sans précédent. Le chef de l'État reçoit en ce moment même, en réunion bilatérale, les partisans du maintien de la Calédonie dans la France, puis les indépendantistes. On ne sait pas à quelle heure il quittera le territoire, mais il l'a promis en arrivant et c'est très attendu. À l'issue de cette journée, des décisions seront prises et des annonces seront faites, a-t-il dit. À Nouméa, Jean-François Bodin pour Radio Vatican.
En métropole, cette fois la campagne pour les européennes bat son plein avec ce soir un duel entre le Premier ministre Gabriel Attal et Jordan Bardella, le chef du Rassemblement National, parti d'extrême droite, largement en tête dans les sondages. Les européennes, évidemment tous les épiscopats du continent, encouragent leurs fidèles à se rendre aux urnes. En France, les évêques veulent s'adresser à l'intelligence des électeurs. Leur président, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, ne cache pas son inquiétude au regard des sondages et invite les Français à se poser les bonnes questions à l'occasion du scrutin du 9 juin.
Nous risquons encore une fois d'avoir un vote qui se prononce sur des sujets nationaux et non pas sur les enjeux du continent européen. Personnellement, je suis contre le fait de donner des consignes de vote et notre conférence des évêques depuis des années a décidé de ne pas donner de consignes de vote. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous voulons nous adresser à l'intelligence des électeurs, des citoyens, des catholiques et des autres. Et donc nous voulons donner des éléments et des arguments pour essayer d'éclairer leur choix et de mesurer la responsabilité que chacun engage dans le vote qu'il doit prendre. Quelle Europe est-ce que nous allons laisser aux générations qui viennent? Qu'est-ce que nous voulons vraiment construire et quel monde préparons-nous pour ceux qui vont venir après nous?
Des propos recueillis par Jean-Charles Puzolu. Bombardement russe sur la ville de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine. Au moins 4 morts selon un dernier bilan officiel. L'offensive russe dans ce secteur a poussé en tout 11 000 personnes à être évacuées selon le gouverneur local. Les relations entre le nouveau président de Taïwan et la Chine ne sont pas parties du bon pied. Le gouvernement chinois a lancé aujourd'hui des manœuvres militaires qui encerclent l'île en guise de punitions sévères, selon les termes, et de sérieux avertissements adressés aux séparatistes, donc selon les termes de Pékin, les prévenant ces séparatistes qu'ils finiront dans le sang. Pékin reproche au président taïwanais d'avoir tenu des propos lors de son investiture qui sont un aveu de l'indépendance du pays. Taipei a formellement condamné cette démonstration de force, la qualifiant de provocation et d'action irrationnelle. Au Tchad, investiture aujourd'hui du président Mahamat Idriss Déby Itno, élu le 6 mai dernier, conséquence de sa victoire. Le premier ministre de transition, Succès Masra, a présenté hier matin sa démission, conformément à la nouvelle constitution. N'Djamena Abba-André Dieudonné.
Une démission qui intervient à la veille de l'investiture de l'héritier du trône Mahamat Idriss Déby Itno. Il a remporté l'élection présidentielle du 6 mai dernier dès le premier tour avec 61% face aux 9 autres candidats selon les institutions chargées d'organiser et de gérer les contentieux électoraux au Tchad. Une victoire très contestée par son principal adversaire, Dr Assiongar Masra Succès, qui lui a recueilli 18,54%. Mais conformément à la pratique républicaine, Dr Assiongar Masra Succès, qui revendique toujours la victoire, ne peut déroger à la règle. Il justifie son acte par le fait qu'avec la fin de l'élection présidentielle du 6 mai dernier, dont les résultats sont connus de tous, le gouvernement de transition qu'il dirige est devenu sans objet. Pour les choix politiques devant nous tous qui impacteront le peuple qui attend le changement, écrit-il, ma plus grande prière patriotique est que Dieu nous fasse grâce de sa sagesse et vous bénisse, qu'il bénisse le courageux et résilient peuple tchadien et qu'il prenne en garde notre pays. Fin de citation. Le président élu Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas encore donné suite à cette démission. Selon le service de la communication de la présidence, 35 pays amis sont invités à l'investiture du président Mahamat Idriss Déby Itno, dont 8 chefs d'État africains ont confirmé leur participation. Abba André Dieudonné N'Djamena pour Radio Vatican.
État d'urgence réinstauré dans 7 des 24 provinces de l'Équateur, annoncé hier du gouvernement qui avait déjà pris la même décision en janvier pour lutter toujours donc contre les trafiquants de drogue. Les autorités justifient cette mesure, cette fois par l'augmentation de la violence systématique perpétrée par des groupes violents organisés et terroristes dans plusieurs zones du pays. Déclaration donc du gouvernement. L'Équateur doit accueillir en septembre le congrès eucharistique mondial qui se tiendra à Quito, la capitale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.